Chapitre 2. Je passe sur les deux jours qui suivirent. Si imprévu et si cruel que soit un deuil, il donne lieu aux mêmes occupations douloureuses ou répugnantes et ne diffère pas d'un autre. Ce fut le matin du troisième jour, par une maladie maussade et rêche, que nous conduisîmes Pierre au cimetière. Au retour, nous dûmes encore subir la présence des invités venus selon l'usage de la campagne. Enfin, vers le milieu de l'après-midi, la maison reprit le silence particulier aux demeures où la mort a passé. On y parle à voix basse, on y chemine sans bruit. Arlette, épuisée, s'était réfugiée dans sa chambre. Il ne me restait plus qu'une démarche à accomplir, et qui était une visite au curé pour le remercier au nom d'Arlette, ainsi qu'elle m'en avait formellement prié. Toutefois, avant de partir, j'éprouvais à mon tour une telle lassitude que je remis la corvée à plus tard et allai m'asseoir d'abord auprès du lac. J'y demeurai un long moment. Je contemplais la nappe d'eau maintenant si calme et qui, pourtant, avait tué Pierre. Sa beauté me faisait peur. Je ne parvenais pas à oublier son meurtre. Je songeais aussi à Pierre, de la manière respectueuse et un peu timide dont nous avons coutume d'honorer la mémoire de ceux qui viennent de nous quitter. Je le sentais à la fois présent et infiniment loin. Quelle fatalité l'avait conduit? Avait-il vu la mort approcher de lui? Quels efforts avait-il tenté pour y échapper? Question très vaine, assurément, bien que depuis la catastrophe, elle ne m'était guère quittée. Puis tout à coup, sur cette grève, presque à la place où 3 jours auparavant nous avions ensemble admiré l'horizon, l'idée qui m'avait épouvanté à la première heure surgit, non plus vague et imprécise, mais impérieuse. Pierre devait savoir dès le matin quand et comment il devait mourir. Alors un suicide? Pour quelle raison? Car on ne se tue pas sans motif. De ce qui avait pu se passer avant mon arrivée, il est entendu que j'ignorais tout. Après, du moins, quelque chose aurait dû me mettre sur la piste. Or, non seulement rien ne justifiait pareille thèse, mais chaque fait contribuait à la ruiner. Le désespoir d'Arlette était sincère, dénué de retour sur elle-même. Elle ne s'adressait aucun reproche et souffrait uniquement de la fin tragique de Pierre. Alentour, chacun la plaignait sans arrière-pensée. Aucun doute ne s'élevait au sujet de la marche du ménage. Restait l'enquête sur les circonstances du drame, et elle n'avait pas abouti. Une barque échouée avait bien été retrouvée aux environs d'Évian. Toutefois, le batelier interrogé ne pouvait dire à qui l'avait loué. Leur est-il dit que le renseignement était sans valeur, car l'homme s'enivrait à journée faite. Même si Pierre était parti d'Évian et non de Meillery, qu'aurait-ce prouvé? Ses affaires pouvaient l'avoir conduit durant l'après-midi ici et là. Ainsi, les apparences étaient muettes. Cela seul comptait que Pierre m'avait fait venir. Je tentais de discuter avec moi-même. Rien ne prouvait en effet qu'il n'eût pas eu pour cela une raison plausible. Pourquoi dramatiser gratuitement une ignorance rendue définitive par l'imprévu? Il y avait aussi la phrase obscure et prononcée avec quel accent? En séjournant ici, et à ce moment tu me rendras service. Mais l'aurait-elle pu s'éclairer avec le reste, s'il avait eu le temps de s'expliquer? Quand on est dans l'indéfinissable, les mots reçoivent trop leur lumière du présent. À force d'être le reflet de nous-mêmes, ils ne servent qu'à égarer. Je m'égarais. Allons, trêve de suppositions vaines, la réalité suffisait sans chercher au-delà. En route plutôt pour la visite au curé, puisqu'Arlette y tenait. Mais au fait, à quel propos les remerciements dont j'étais chargé? Serait-ce pour avoir rempli un office normal ou bien pour avoir passé outre à des possibilités de mort volontaire? Et si Arlette avait eu la même idée que moi? Sentant qu'à m'obstiner plus, je déraisonnerais tout à fait, je me levai enfin et, résolu à écarter coûte que coûte la hantise qui me tenait, j'allai sonner au presbytère. Ce fut l'abbé Rouville en personne qui vint m'ouvrir. Il devait travailler à son jardin et parut à la porte, les manches et la jupe de sa soutane relevées, un tablier bleu autour de la taille. À ma vue, il sembla un peu décontenancé. Il avait dû s'attendre à la visite d'un paroissien, non à celle de l'inconnu que j'étais évidemment pour lui. Je dis aussitôt, « Je viens de la part de Madame Joffrelin. »« Oh, très bien, entrez donc, monsieur. » Puis m'ayant conduit dans une pièce, mi-partie salon, mi-partie cabinet de travail, « Je me lave les mains et je suis à vous. » Resté seul, j'en profitais pour examiner les lieux et me faire à l'avance, si possible, une idée de l'homme. Il y avait là beaucoup de gravures et de toutes, beaucoup de livres et de tous. L'imagerie de Saint-Sulpice voisinait avec des reproductions de la Sixtine, la théologie avec Chateaubriand. L'ensemble marquait un essai de culture et des connaissances plus étendues qu'on est accoutumé à rencontrer dans le clergé de campagne. Quand l'abbé Rouville me rejoignit, nettoyé, la soutane en ordre, le tablier retiré, j'eus le sentiment de ne pas me tromper et que son allure était par-dessus le marché, passablement mondaine. Avait-il été envoyé à Lugrin par disgrâce? Était-ce au contraire un apôtre épris d'humilité et désireux de renoncer au succès de la ville pour se consacrer tout entier à un ministère ignoré? Peu importe. Au total, que son intelligence fût supérieure à la moyenne ne faisait pas doute, et je ne tardais pas à m'en apercevoir. « Madame Joffrelin, désire-t-elle de moi quelques services ?» demanda-t-il après m'avoir invité à m'asseoir en face de lui. Je répliquai, « Non, monsieur, non, elle m'a prié toutefois de venir en son nom pour vous remercier pour le concours que vous avez bien voulu lui apporter durant les heures tragiques qu'elle a traversées. Je tenais à m'acquitter de ma charge dès aujourd'hui. » L'abbé Rouville inclina légèrement la tête. « Madame Joffrelin est bien bonne. » Puis il se tut, persuadé probablement que ceci n'était qu'un préambule, alors que, vraiment, je n'avais rien d'autre à ajouter. Je crus poli de reprendre. « Vous habitez Lugrin depuis longtemps ?»« J'y étais déjà, quand Madame Joffrelin est venue s'installer ici. » Il poursuivit d'un ton où je n'aurais su quelle part faire à la réalité et à la politesse. « J'appréciais beaucoup son malheureux mari. » Sans nous voir fréquemment, nous jouissions d'une mutuelle estime l'un pour l'autre. Il n'avait pas, hélas, la lumière intérieure qui seule procure aux hommes la paix dont ils ont soif. Sa revanche, en revanche, ses témoignages de confiance m'ont souvent touché et je n'ai point cessé de lui en être reconnaissant. J'approuvais silencieusement, étonné, je l'avoue, que Pierre ne m'eût pas mentionné ce prêtre parmi ses relations amicales. « Vous êtes sans doute un parent, » poursuivit-il. « Oui, un ami, venu la veille de l'événement, par hasard, » ajoutai-je sans parvenir à dissimuler une légère hésitation. L'abbé Rouville dit avec simplicité, « Alors, monsieur Revel, « Vous connaissez mon nom ?» demandai-je assez surpris. « Oh, monsieur Joffrelin m'a beaucoup parlé de vous. » Il y eut ensuite un intervalle d'embarras, comme si chacun de nous taisait d'autre chose qu'il aurait voulu dire. Mais presque aussitôt, l'abbé Rouville se leva, reprenant le fil avant l'incidente. « Oh, je ne crois pas, monsieur, que les faits arrivent jamais par hasard. C'est toujours la Providence qui, guidant l'homme, permet de les préparer. » Ou de les subir, achevai-je, un peu gêné par sa phraséologie ecclésiastique. Le curé répéta comme un écho, « Oui, ou de les subir. » Saisi d'un doute devant l'insistance de son regard, je repris. Ben, « En tout cas, j'en suis encore à me demander comment la catastrophe a pu se produire. Pierre, qui habitait le pays, qui connaissait les dangers du lac... » Il m'interrompit. « Oh, si vous devez connaître la vérité, soyez sûr qu'elle paraîtra, pas à votre heure, mais à celle marquée par Dieu. D'ici là, contentez-vous de le prier pour votre ami. » Je me levai, prenant la phrase pour un congé. Toutefois, je ne pus me tenir d'exprimer une dernière fois mon humeur. Hélas, oh, si souvent la vérité est demeurée cachée, qu'il est peu probable de la voir se révéler dans l'atroce aventure qui nous occupe. C'est peut-être bien fait. Pour qui? Mais pour la veuve, par exemple. Avais-je mal entendu, ou l'abbé Rouville soupçonnait-il, comme moi, que Pierre avait résolu de mourir? Je me rassis aussitôt, et sans prendre la peine de cacher mon trouble, « Vous venez de prononcer une parole, monsieur le curé, qui répond en moi à des préoccupations dont je ne parviens pas malgré tout à me dégager. Elle m'autorise en même temps à solliciter un supplément d'explication. » Il affecta de s'étonner. « Que voulez-vous dire? Mais pourquoi supposez-vous que l'ignorance où nous sommes des circonstances de la mort de mon malheureux ami soit favorable à sa mémoire ?» Une lueur passa dans les yeux du prêtre, puis s'éteignit. À mon tour, monsieur, permettez-moi de vous assurer que vous n'avez pas dû comprendre ma pensée. Il est vain de chercher à savoir les raisons d'un événement quand on ne peut plus rien sur celui-ci. L'union de votre ami et de Madame Geoffrelin était, je le crains, de celle où les apparences de bonheur recouvrent la tourmente. Votre ami lui-même avait des manières de sentir particulièrement vives, et j'ai été témoin parfois de sa pudeur à masquer la souffrance que provoquait en lui l'emprise d'idées à la fois profondes et inutiles. Madame Geoffrelin, a-t-elle été aussi perspicace que moi, je l'ignore. Mais au cas assez probable, je ne saurais pas. N'estimez-vous pas que le lui révéler aujourd'hui serait ajouté, sans profit pour personne, une cruauté à sa peine déjà cruelle. Tandis qu'il laissait tomber ses mots, choisissant chacun d'eux avec le souci évident de ne pas mentir, sans cependant livrer la vérité qu'il connaissait, je n'avais déjà plus qu'un désir, lui arracher celle-ci. Il le pressentit et conclut d'un ton sans réplique, « Quoi qu'il en soit, répétez à Madame Geoffrelin qu'en accompagnant son époux au champ de repos, j'ai invoqué Dieu pour elle autant que pour lui. » Il m'a toujours paru que mon rôle de prêtre était de solliciter la miséricorde divine pour les vivants, plus encore que pour les morts. Pardonnez-leur, mon père, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà le grand mot de l'Évangile et le sommet. Adieu, monsieur. » Il m'avait, tout en parlant, reconduit vers l'entrée. Puis, m'ayant encore salué, il me laissa sur la route. Je regagnai la maison dans un état d'extrême agitation. Cependant, n'était-ce pas ma seule imagination qui m'avait porté à découvrir dans les paroles de l'abbé Rouville l'écho de mes pensées? Il était invraisemblable que, certain d'un suicide, il eût accepté sans hésiter de procéder à des obsèques religieuses. Plus invraisemblable encore que Pierre eût mis ce tiers au courant d'incidents de ménage si intimes. Il y avait enfin dans les insinuations du prêtre au sujet d'Arlette je ne sais quoi de déplaisant qui achevait de me mettre en garde. Non, décidément, ce que j'avais entendu était sans valeur. Tout au plus devais-je en conclure que les relations entre Arlette et le presbytère manquaient de cordialité. Cela expliquait aussi l'opportunité des remerciements et le désir d'un mandataire pour les transmettre. Je venais à peine de remonter dans ma chambre, décidé à y prendre un peu de repos, quand ma porte s'ouvrit pour laisser passer Arlette qui n'avait vu rentrer. « Ne te dérange pas, » dit-elle, « ne me réponds même pas. Je viens surtout parce que j'ai besoin de n'être pas seule et pour te mettre au courant de mes projets. »« À ton gré, » répondis-je, « d'avant je me déclare à ta disposition, car j'ai décidé de rester ici le temps qu'il faudra. »« Merci. » Elle s'assit ensuite, l'air accablé, appuya ses coudes sur ses genoux, son menton sur ses deux mains, puis resta ainsi un long moment, sans prononcer un mot. Autour de nous régnait le silence qui succède au départ et exprime si bien le harassement des choses. Le jardin lui-même était muet, sans cri d'oiseau, ses branches immobiles. Ce fut moi qui repris. « Bien, je crois avoir fait tout ce dont tu m'as chargé. » Elle acquiesça d'un signe lointain. Je poursuivis. « J'ai terminé par le curé. Sais-tu qu'il est très bien ? » Il m'a prié à son tour de te remercier pour ta démarche, et il est apparu sensible. Arlette eut un imperceptible haussement d'épaule. Un nouvel intervalle s'écoula. Elle sortit enfin de sa rêverie. « Tu dois bien supposer que je compte partir d'ici, » fit-elle, comme si j'avais pu lire jusque-là dans ses pensées. « Où iras-tu ? » « Oh, je l'ignore. C'est d'ailleurs indifférent. Tu quitterais cette maison tout à fait ?» Elle fit oui d'un signe de tête et acheva. Oh, et ne plus vivre dans ce décor, ne plus le voir, être ailleurs où j'oublierai. Je murmurai, alors ? Alors, moi parti, tu vendras tout. Même les meubles ? Surtout. Je m'inclinai, comme tu voudras. Elle continua. Auparavant, si tu trouves des papiers, il y en a peut-être dans son cabinet de travail, mais je n'y veux pas entrer. N'hésite pas, brûle tout, sans lire. Mais songes-tu de quoi tu vas te priver ? Qui sait si tu ne regretteras pas plus tard ton sacrifice ? Son regard se détourna du mien. Oh, si je pouvais détruire jusqu'au souvenir de ce qui a été et ne sera plus, oh, je n'hésiterai pas, dit-elle d'une voix éteinte. Mais beaucoup paieraient d'une fortune la douceur de le posséder. C'est que tu ne sais pas combien il est amer. Pourquoi me rappelais-je au même moment le mot de l'abbé Rouville ? Les apparences de bonheur recouvrent la tourmente. Il me sembla qu'Arlène venait d'exprimer la même idée, mais avec l'accent de l'être qui en a connu la mortelle réalité. Étrange, soupirai-je à mi-voix, le curé tout à l'heure avait l'air de partager ton opinion. Arlette se redressa vivement. Qu'a-t-il raconté, celui-là ? Oh, répliquai-je, de quel ton tu me le demandes ? Qu'y a-t-il entre vous ? Arlette s'était déjà ressaisie. Oh, peu de choses. Une hostilité personnelle que rien ne justifie. Une influence sur Pierre que j'ai cru mauvaise. Mais que prétend-il encore ? Oh, j'ai le droit de le savoir, tu dois me le dire. Rassure-toi, il s'est contenté de philosopher et à cette occasion d'exprimer son scepticisme au sujet des bonheurs qui se voient. Qu'en sait-il ? Et simplement aussi parce qu'Arlette ne niait pas, je ne doutais plus qu'une tourmente eût emporté le ménage de Pierre. Ce fut un sentiment si impérieux que, sans hésiter, je poursuivis. « Mais toi-même, n'étais-tu pas d'un avis identique l'autre jour, quand tu me confiais ta peur ?»« Hélas, je n'ai pas compris alors ce que tu redoutais, tandis que maintenant... » Elle saisit mon bras. « Mais deviens-tu fou, toi aussi ?»« Qui sait si l'affreuse chose... » De nouveau, elle m'arrêta, mais cette fois avec une violence qui m'effraya. « Tais-toi, tais-toi, n'ajoute rien !» Elle s'était levée, elle avait tendu les mains en avant comme pour se protéger contre une agression. Une immense douleur nous étreignit. En dépit du silence exigé, nos yeux n'avaient-ils pas tout dit? Arlette reprit avec une expression d'accablement. « Moi qui espérais qu'auprès de toi... » Elle n'acheva pas. Je crus qu'elle allait tomber et courut vers elle. « Non, non, laisse-moi. »« Arlette !» m'écriai-je. De la main, elle me fit signe encore de ne pas poursuivre, de ne pas l'accompagner. Du moment que tous les deux savions être torturés par le même cauchemar, pouvions-nous encore nous parler, nous revoir sans nous blesser ? Je la regardais s'éloigner. J'entendis son pas hésitant s'éteindre dans l'escalier. J'étais demeuré sur le palier. J'avais la sensation de m'enfoncer dans des ténèbres. De toute mon âme, j'aurais souhaité de la lumière et respirer. Une voix me fit tressaillir. « Quelque chose pour monsieur. »« Quoi ? Qu'y a-t-il ? Vous dites que c'est pour moi ?» Je ne savais plus très bien ce qui arrivait. J'avais saisi machinalement l'enveloppe que me tendait un domestique et j'en faisais déjà sauter les cachets. « De la part de monsieur l'abbé Rouville, achevait le domestique. » Sous la première enveloppe, une seconde apparut, ayant pour souscription de la propre main de Pierre, pour remettre à monsieur Revel... 2 jours après ma mort. « Eh bien, qu'attendez-vous » m'écriai-je d'une voix sans timbre. « Vous voyez bien que je n'ignore pas d'où cela vient. » Et je rentrai dans ma chambre faisant claquer la porte. Je tenais l'envoi du prêtre comme j'aurais tenu Pierre lui-même. J'avais aussi envie de sangloter, car avant de rien lire, je croyais ne plus rien ignorer. Vanité des prévisions humaines. L'abbé Rouville ne m'avait pas trompé. La douleur suprême allait paraître. Arrivé à ce point de mon récit, je me contenterai de transcrire sans commentaire les documents. Ils comprennent une lettre écrite dans la nuit qui suit mon arrivée et des fragments extraits d'un journal intime relu probablement la même nuit et dont le surplus a dû être détruit par Pierre. Voici la lettre. « Mon ami, je t'ai fait venir parce que ta présence pouvait adoucir les émotions de demain. Tu es pour moi du passé. Qu'es-tu pour Arlette ? C'est son secret et le tien. En tout cas, ce passé a toujours été loyal. » Et Arlette trouvera en toi un camarade sûr. Donc, j'ai eu raison de t'appeler. Mon ami, je me tuerai demain. Oh, proprement, rassure-toi, et sans scandale. Le motif, les motifs, si tu préfères, je les garde pour moi. C'est mon droit. Un seul t'appartient, parce que tu y es mêlé sans le savoir, cela va de soi, et sans l'avoir voulu, je n'en doute pas. Celui-là, tu le trouveras dans les quelques feuillets écrits au jour le jour et que je joins à ma lettre. Lis, décide ensuite d'un avenir pour lequel je cesse d'être un obstacle. Si je ne me suis pas trompé, j'aurais, en m'effaçant, rendu la liberté à celle que j'ai aimée plus que ma vie. Si je fus victime d'une illusion, mon sacrifice ira simplement grossir la liste des actes inutiles dont se compose une existence humaine. Le mal ne sera pas grand. Un mot encore. Carlette ignore tout, même que je pars le cœur plein d'elle. Je compte sur toi pour qu'elle m'oublie, car l'oubli est au terme de nos regrets les plus cuisants, et il est vain de reculer une échéance inévitable. Et puis, fermons le livre. J'ai l'espoir qu'il n'est pas le dernier, et qu'ailleurs, je ne sais où, il me sera donné d'en parcourir un autre avec des yeux moins douloureux. J'ai l'espoir surtout qu'ailleurs, je ne sais où, les âmes sont pénétrables aux âmes et la lumière règne. Si je ne devais, en m'en allant d'ici, que changer de solitude, la mort serait aussi abominable que la vie, alors à quoi servirait-elle? Voici le journal. On remarquera que les dates en avaient disparu. Le texte, toutefois, montre qu'il devait s'espacer sur environ 3 années. Journal. Ce matin, bouquet d'aubépine sur la table. Bouquet fait avec des branches courtes, trapues, sans élan. Cueilli sur la haie, il en avait gardé l'épaisseur hostile et un air de vouloir nous séparer. À peine installé, j'ai dit à Arlette « Ne trouves-tu pas qu'il est de trop ?» Elle a répondu « Pourquoi il sent le printemps ?» On a toujours tort de fixer par des mots une impression qui nous effleure. C'est une manière de la retenir et l'inviter à délire domicile. À partir de là, je ne me suis plus occupé que de bien voir Arlette hors dépit de la barrière qui voulait m'en empêcher. Il existait aussi un second obstacle, mais je ne l'ai remarqué que plus tard. On avait négligé de relever la suspension. L'intervalle laissé libre entre elle et le bouquet était donc très petit. Il est arrivé ensuite une chose stupide et inexplicable. Comme je continuais de m'acharner à bien voir Arlette, tout à coup, je ne l'ai plus reconnue. Quelque autre, à la faveur du bouquet, avait dû se substituer à elle. Ah, l'on ne soupçonne pas les traits d'un être tant qu'on n'a pas pu s'échapper au magnétisme de ses yeux. Parce que les yeux d'Arlette n'étaient plus visibles, parce que je n'apercevais d'elle qu'un bas de visage, je découvrais sur celui-ci des reliefs extraordinaires. C'est ainsi que, de part et d'autre des lèvres, j'ai distingué un arc tendu pour retenir à tout prix la confidence, et au milieu du menton, un creux pareil à un sceau cadenassant des secrets. En même temps, j'ai senti qu'un voile infiniment ténu, l'ombre d'une ombre, descendait entre nous et allait y rester. Même n'y avait-il pas toujours été, sans que j'y eusse pris garde? Tout à coup, Arlette a repris. « Décidément, tu avais raison, ces fleurs nous gênent. » Elle a écarté le vase, relevé la suspension. De nouveau, j'ai vu les yeux, mais ils n'étaient plus comme avant. Je crois que c'est tout. Aimer n'est pas seulement se sentir soulevé par le désir d'une femme. Ce n'est pas uniquement avoir l'obsession de ses lèvres et la hantise de son corps. C'est posséder les pensées qui fleurissent en elle et les images de ses songes. C'est, la cherchant dans ses yeux, s'y retrouver comme dans un miroir, sans cesser pourtant de l'y apercevoir. C'est, rayon dans un cristal, traverser l'âme d'un jet pour s'épanouir ensuite en gerbe de couleurs. C'est, à deux, former un univers qui regarde l'autre et ne lui appartient pas. Est-ce possible? Je ne sais plus. Depuis que j'ai vu le visage inconnu, qui était pourtant un visage adoré que je croyais connaître, j'ai la certitude qu'au-delà d'une réalité présente et qu'on possède, il y en a d'autres, en nombre incalculé, qu'on ne possédera pas. Oui, derrière l'âme qui est mon délice, dorment d'autres âmes qui m'échappent. Nous avons l'illusion de nous étreindre. Nous ne nous étreindrons jamais dans la plénitude du don. Et ce ne sera ni la faute de mon appel, ni celle de sa bonne volonté. Pas plus elle que moi, nous pourrions nous livrer en entier. Il faudrait pour cela être sûr de ce que nous sommes, et nous n'en avons même pas le soupçon. Aujourd'hui, j'ai été moi aussi scruter mon visage devant une glace. Derrière la face d'amant ivre que je n'ai pas cessé d'être, moi aussi j'en ai découvert une autre qui m'a fait peur. Il y avait sur elle toutes les traces d'un passé que je croyais oublier, que je ne pourrais détailler si je le voulais, et qui pourtant demeure agissante à la façon du chloroforme. Je me suis réveillé, je perçois de nouveau le présent, mais je n'ai pas cessé de subir le malaise du narcotique. Trop faible désormais pour altérer ma conscience, il agit encore assez pour altérer le souvenir. Que reste-t-il dans Arlette de ce même passé dont elle est, sans le vouloir, la gardienne vigilante? Quelle plage vide ou peuplée son cœur a-t-il traversé? Sous quelle lumière son cœur a-t-il battu en ces temps où je ne la connaissais pas? Et n'est-ce pas cela dont le visage que j'ai découvert prétend conserver le secret? Ce ne sont que des riens, peut-être, un effet d'accoutumance, car on s'habitue vite au bonheur. Il me semble que nous ne sommes plus heureux de la même façon, et que nos joies s'émoussent. Sous prétexte d'agiter des projets, l'extérieur pénètre entre nous, et je m'étonne de le voir accueilli si aisément. Hier, décision concernant les meubles. Arlette aime les styles anciens. C'est un désaccord léger, car il me plaît de penser que chaque génération doit laisser aux suivantes le témoignage de son goût personnel. Nous avons aussi projeté des excursions. Auparavant, il nous suffisait de marcher, peu importait le but. Tout à l'heure, enfin, Arlette m'a prié de lui faire la lecture. Tandis que je tournais les pages du roman qu'elle a choisi, j'entendais la voix d'un importun troubler notre tête à tête. Soudain, cette voix, qui était la mienne, a lu. C'est la vieille histoire du festin d'amour qui ne se peut changer en pain quotidien. Ils continuaient de se sourire sur leur parure de fête et avec des mots de circonstance, mais la faim et la soif les consumaient, et leurs regards avaient peur de se rencontrer. Arlette n'a pas eu l'air d'entendre. Quant à moi, je n'ai pu poursuivre et j'ai fermé le livre. Ainsi, peu à peu, je ne saurais dire pourquoi, naît autour de nous une contrainte qui, sans être douloureuse, suffit à rendre nos paroles plus banales, nos gestes moins imprévus. Je répète qu'il ne se passe rien. Nos emportements sont pareils. Nous errons, comme avant, les bras liés et aussi proches. Cependant, j'ai, d'une manière continue, l'obsession que nous sommes deux, elle et moi. Conversation singulière avec Arlette. Nous étions au jardin. Tout à coup, elle dit « Aujourd'hui, je ne sais quel désir me vient de savoir chez qui tu fréquentais jadis. » « Une enquête, alors ?»« C'est si intéressant du passé. Oh, pas plus que les lettres trouvées après décès. On ne les ouvre pas et on hésite à les brûler. Y toucher me paraît un sacrilège inutile. J'ai répondu cela. Non pas qu'un tel interrogatoire m'effraie, mais parce qu'il répond trop à certaines de mes pensées. Alors quelques instants s'écoulent et c'est moi qui reprends. Et toi-même, à quoi pensais-tu? De qui as-tu relevé quand je ne te connaissais pas encore? Ce que j'ai de toi me semble si peu de choses. Je me sens jaloux de tes projets morts, de tes joies évanouies, de ce qui a rempli des années que j'ignore et qui sont pourtant le plus clair de ta vie. Arlette m'a interrompu. Je croyais qu'y toucher du sacrilège inutile. Puis elle a réfléchi. Je crois aussi que je n'existais pas avant de t'avoir rencontré. Et peut-être est-ce vrai? Peut-être aussi n'est-ce qu'une manière de m'interdire son passé comme j'ai réservé le mien. Ainsi, nous avons l'air de deux compagnons munis de leurs sacs soigneusement fermés. Tout est commun entre eux, tout sauf les clés. Un point de rencontre révèle. J'ai parlé de notre camarade, de nos farces de jadis. Elle a joué avec lui. Ils avaient promis de s'épouser plus tard. Nos yeux, apercevant une vision pareille, semblaient effacer le temps. Nous avions l'étonnement des promeneurs qui, sans le savoir, ont pénétré dans un parc interdit. Nous parlons souvent de Revel. J'ai l'impression qu'Arlette trouve du plaisir à remuer les aventures de son enfance où il paraît. Je sais maintenant dans quelle maison ils jouaient ensemble, les voyages qu'ils ont faits, une histoire de pêche burlesque, un projet d'enlèvement. Quand Arlette reste pensive, j'ai un moyen sûr de l'arracher au silence. Tandis qu'elle égrène ses souvenirs, je surveille son regard qui, brusquement me quitte, remonte à des lieux ignorés de moi, lit des heures abolies sur une horloge que je n'ai point vue, et sourit à un ami que j'ai cru connaître, mais qu'elle connaissait mieux. Il paraît qu'il se tutoie. L'avais-je remarqué avant nos noces? Il paraît qu'ils s'écrivaient jadis. Leur correspondance a cessé quand Arlette s'est fiancée. Il paraît, oh, mais que sert de répéter de tels enfantillages dont ne nous entrenons que du bout des lèvres, et parce qu'il est bon de jamais se taire quand on est deux. Cependant, à les rapporter ici, j'éprouve une impression bizarre. Je ne suis pas jaloux, je souffre comme si j'allais le devenir. Évidemment, Revel a été le premier amusement d'Arlette. Il a ensuite disparu de sa route, autant qu'a disparu de la mienne, la femme qui fit surgir en moi le premier réveil de volupté. Ainsi, nous retrouvons-nous tous à l'aube de la vie sensuelle, une figure décisive et vaine, et qui nous semble même un peu ridicule, car en 100 ans nous n'avons pas su comprendre ce qu'elle disait, et dont aussi nous osons parler à découvert, car les souvenirs qu'elle évoque n'exigent aucun mystère. En devenir jaloux serait puéril, en prendre ombrage et sot. Je l'écris, j'en suis certain, et pourtant je n'ai pu m'empêcher de dire il y a un instant. Gardons un peu de Revel pour nos soirées d'hiver. On aurait tort d'abuser d'un ami, même du meilleur. Et si je suis à peu près convaincu que Revel n'est rien pour Arlette, je n'en suis pas moins résolu à ne jamais lui écrire, de peur qu'Arlette ne revoie son écriture. Je n'aperçois plus son visage, mais seulement l'autre, celui que j'ai découvert à travers le bouquet. Sommes-nous changés? Est-ce la pensée de Revel qui gâte nos plus chers moments? Est-ce moi qui obéis à une imagination en désordre? Est-ce Arlette qui réellement se dérobe? J'ai l'intuition parfois que nous devenons incapables de nous joindre. Nous parlons et nos paroles viennent d'au-delà. Nos mots restent précis. Je me demande si leur sens est bien celui que je suppose. Illusion des amants. Jusqu'à ce jour, mon ignorance d'Arlette n'était qu'une source de joie. Chaque heure, en détruisant le paysage du moment, m'en promettait un autre, également féerique. Et nous allions, et où sommes-nous allés? Je voudrais oublier que j'ai désiré posséder son passé. L'apôtre qui souhaitait de rester au Tabor avait raison. Il eût supprimé le calvaire et le salut du monde. Mais devant la gloire et dans la lumière de Dieu, quel mortel se soucie de l'univers! L'abbé Rouville se prodigue peu, et ne paraît, si l'on peut dire, qu'au jour de commandement. Il m'attire par je ne sais quel air laïque, reflet d'une jeunesse dont il ne parle pas, et un sens apostolique qui le conduit à s'exprimer avec simplicité, sans que cela nuise en rien à sa perception très aiguë des positions humaines. Il est venu aujourd'hui nous rendre visite. Arlette, qui le goûte peu et l'accuse de manquer d'onction, s'est dérobée. J'ai donc reçu seul l'abbé et l'ai conduite au jardin. Nous avons déambulé dans l'allée, pareil à des religieux dans un cloître. Du conflit survenu entre l'évêque et le préfet, j'ai passé aux instructions du pape, aux récoltes, enfin, au temps qu'il fait. C'est le tour d'usage entre gens peu disposés à se livrer et qui ne possèdent pas, comme à Paris, la ressource indéfinie des romans et du théâtre. La conversation allait chômer quand l'abbé a cru devoir me féliciter de mon bonheur et ajouter « Puisse Dieu vous accorder qu'il dure, soyez aussi son gardien vigilant, l'homme est toujours à lui-même son plus grand ennemi. » J'ai répliqué « Oh, soyez tranquille, je n'oublie pas que l'essence du bonheur est d'être fugitif. » Il s'est arrêté et me scrutant d'un coup d'œil rapide « Mais vous en parlez déjà, comme si le vôtre était en péril. » J'ai rougi. « Oh, n'en croyez rien. En revanche, je ne sais quelle superstition me fait craindre de l'étaler. L'homme qui se vante d'être heureux m'a toujours paru reprocher au sort de l'avoir oublié. « Parfait !» a répliqué l'abbé. À mon tour, piqué par l'allure personnelle qu'il avait prise à mon égard, j'ai repris. « Mais vous-même, monsieur l'abbé, comment avez-vous eu l'idée de chercher dans une pauvre cure de campagne un état qui me semble fort étranger à vos origines, que j'ignore, et à une culture dont je puis témoigner ?» Il a rougi comme j'avais fait auparavant. « C'est, dit-il, par esprit philosophique, et pour fuir un mal que bien peu de gens reconnaissent, bien que tous en soient victimes. » Ah, vous ajoutez une énigme à la première. Il s'est recueilli une seconde. « Oui, je sais que vous n'êtes pas encore en mesure de la déchiffrer, mais cela viendra. » Comme je m'étonnais de plus en plus, il a tenté de s'expliquer, non sans une légère impatience. « Oh, si j'avais eu comme vous la chance de rencontrer une compagne parfaite, moi aussi peut-être n'aurais-je jamais découvert que la solitude est à la racine de chaque misère humaine. Hélas, mon expérience m'a interdit de l'ignorer. Je me suis réfugié en Dieu, comme vous vous êtes marié, pour ne plus être seul. De nous deux, c'est moi qui ai toute chance de n'être pas déçu. » « Mais qu'entendez-vous par solitude ?» demandai-je pensif. « Oh, si vous ne le savez pas, Dieu me préserve de vous l'apprendre. » Nous continuâmes de cheminer en silence. Il me semblait que ces paroles venaient, par une sorte de résonance, de réveiller en moi ce que les derniers jours ont mis de trouble dans ma pensée. Je crois à peu près vous comprendre, ai-je murmuré tout à coup. Il a répliqué avec vivacité. Voici une hésitation qui me prouve justement combien vous ignorez encore ce dont je parle. Et je vous en félicite. Après quoi, nous nous sommes quittés, lui gardant la mine fâchée d'un homme qui s'est trop livré, et moi, le cœur glacé, assuré, quoi qu'il en dise, que j'ai compris. Ai-je compris? Serait-ce la solitude qui commence? Je voudrais analyser une souffrance qui m'est pas tout à fait aiguë, sans jamais cesser de rester sensible, faite d'impressions dont aucune ne peut se préciser et dont chacune m'accable. Je respire avec effort dans un air qui m'étouffe, bien qu'il soit le même qu'auparavant. Je redoute le temps qui vient, non seulement pour la menace que j'y pressens, mais pour la peine que j'aurai à le tuer. Ennui, appréhension de dissentiment qui n'éclate jamais, je l'ignore. Solitude, en tout cas, et l'abbé n'a pas menti. Si on a peine à la reconnaître, c'est qu'elle revêt mille formes. Qu'y a-t-il au juste? En apparence, l'accord demeure, pas de rides à la surface, un bonheur uni. Et pourtant, je devine entre elle et moi un obstacle indéfinissable, une image, un désir, enfin je ne sais quoi, grâce auquel une province nous sépare. C'est surtout quand j'examine Arlette à la dérobée. Quelle absence dans son regard! Où va son rêve? Rejoint-il un autre rêve que je ne soupçonne pas et qui guette le sien? Mais non, si je rencontre ses yeux, je les vois clairs comme au début. De tels yeux ne peuvent mentir. Et s'il se contentait de se taire? Avec des yeux de femme, on doit toujours appréhender la duperie d'un secret bien gardé. Un secret, c'est probable ou possible. Lorsqu'elle est ainsi absente, avec quelle ardeur elle paraît vivre, mais ailleurs. Si je propose quoi que ce soit, elle l'accepte. Elle ne dit jamais non. Seulement, je devine à son air que la résignation lui est légère, précisément parce que je ne touche pas à l'inconnu de sa vie. Un secret, mais lequel? Et je retombe dans ma détresse vaine. Une sorte d'usure ronge mon esprit et mes sens. Je végète sans surprise, sans attente de l'heure qui vient, sans regret pour celle qui m'a quitté, obsédé par une pensée unique. Arlette est là et elle n'est plus présente.